France Musique.
Chut, ça commence.
Oreilles encornées, vous que j'allais oublier, il paraissait si bien faite pour recevoir nos confidences.
Danse.
Il lance les jours de bonheur, radieux de joie.
Je fais mon footing au milieu des algues et des coraux, et je fais mes pompes sur les restes d'un vieux carbo. Je dis bonjour, faut bien que je me mouille. C'est ma dernière surprise mardi, je m'écrase le nez au hublot. J'ai mon contrat de confiance dans ce valo qui bouge et que du bol. J'en vois un qui rigole. Oh Gabi, Gabi,
qui devrait t'embrasser la nuit. Je peux pas dormir, je fais des conneries. Oh Gabi, Gabi, qui veut que je chante la mer long des golfs. Pas très clair. En regardant les résultats de son check, un requin qui fumait plus à rallumer son club, ça fait frémir. Faut savoir dire stop.
Tu sais, c'est comme ce type qui voudrait que je me soigne.
Et il carbone son crêpes au mois d'août en Espagne, sur comme ma vie. Prenez ma Johnny Key. Oh Gabi, Gabi, tu devrais pas me laisser la nuit. Ne pas dormir, je fais tes conneries. Oh Gabi, Gabi, qui veut que je te chante la mer. Long des golfs, pas très clair.
Gabi, je t'ai déjà dit que t'es bien plus belle que Morissette. Que belle comme un pétard qui attend plus qu'une allumette, ça fait craquer.
Au feu des pompiers.
Petit salut des greniers de la mémoire cette fin d'après-midi sur France Musique à Alain Bachung, qu'on vous propose d'écouter une heure durant grâce aux archives de l'INA. Ceux qui étaient adolescents dans les années 80 auront immédiatement comme un petit frisson, agréable ou irritant au reste. La chanson c'est comme ça, ça vous prend au coin de l'oreille. Et il faut bien dire que Gabi est passé en boucle sur la bande FM, clip à la télé, couverture de journal Libération et tout le tintouin. Gabi, bien plus belle que Morissette, belle comme un pétard qui attend plus qu'une allumette. Il y en a du jeu de mots dans cette chanson, comme autant de touches surréalistes. Pour autant, Gabi est bien loin de résumer le monde selon Bachung, qui va pousser toujours plus loin les expérimentations de la langue, néologisme, onomatopée, calembour, expérimentation de la musique aussi, nourrie à plusieurs influences musicales, dont il ne cessera de repousser les frontières jusqu'à sa disparition en 2009. Il faut déborder le style pour lui donner de l'avenir, confie Bachung, une phrase magnifique qui vaut pour toute création artistique. Et c'est justement cette dimension d'expérimentation qui va nous intéresser ce soir, par-delà les genres musicaux. Sur France Culture, en 2003, nous commencerons. Bachung parle au micro de Franck Mallet.
À partir de Gabi, il y avait des musiciens que j'avais connus avec Christophe, par exemple. Il y avait un guitariste qui s'appelait Patrice Tison, il est décédé maintenant, Joe Hammer. Enfin, c'était des types ils se conduisaient pas comme des requins, quoi. Ils se sentaient plus impliqués, quand même. Donc, il y avait un dialogue possible, et je pouvais leur dire, ça c'est pas mal, mais essaye ça. Donc on pouvait échanger quelque chose, parce que c'est comme ça, ces musiques-là ne s'écrivaient pas vraiment. On écrit des cordes, ou des cuivres, pour un grand orchestre. Mais tout ce qui était basique, la rythmique et tout ça, ça s'écrivait pas vraiment. Ceux qui les écrivaient, ça restait, c'était trop raide. Ça manquait de fluidité ou de sensualité. Ou ça ressemblait vaguement à de la musique concrète. Vous savez, ces choses qu'on écrit et on fait oh, ah, tic-tac, Mais ça s'écrit, oui. C'est, donc, non, là, ça commençait à être beaucoup plus jouissif. Et là, je me disais, bon, bah oui, ça, donc tout ça, c'est possible. Il y avait d'autres choses qui se mélangeaient. Il y avait le goût pour le cinéma, donc j'avais des images en tête. Même la BD. La BD était très, très en avance, surtout à cette époque-là. C'était insolent, c'était juste, c'était ironique, ou, enfin, trash. Ils étaient vraiment devant, c'était l'expression qui était la plus pointue à une époque. Et ça allait de choses comme Gottlieb jusqu'à Moebius, ou, enfin, cette période où il y avait de la science-fiction aussi, donc des images du futur, des choses déformées, mélangées des univers. Alors, tout ça, je le recevais, puis un jour, je me disais, ben, ces formes-là, pourquoi pas les. S'en imprégner un peu, puis raconter, se raconter à travers ces univers qui peuvent s'apparenter un peu au surréalisme, mais. Et encore, c'était pas totalement du surréalisme, c'était encore autre chose. Voire de la poésie, hein. C'est, mais.
Il y avait chez vous l'idée du collage, il y avait plusieurs sens, hein.
Oui, voilà, il y avait plusieurs sens. J'avais envie de combattre un petit peu le. Ben, il y avait plein de gens qui racontaient les choses telles qu'elles sont. Donc, moi, j'aimais bien raconter les sous-entendus ou les. Ou, je me rendais compte que parfois on écrivait un mot et puis en le chantant, ça racontait le contraire. Alors, dans un premier temps, c'est paniquant. Puis après, on se dit, mais pourquoi pas jouer avec ça? C'est intéressant. On dit quelque chose et puis il y a une façon de le dire et la personne qui écoute pourrait se dire, ben, en fait. Je comprends le contraire, mais il me raconte des salades, là. Donc, enfin, c'est. Il fallait que ce soit intéressant, donc, ben, c'est une des solutions. Mais ça me convenait assez parce que j'étais assez comme ça, ça allait du désespoir à la dérision. Je crois que j'avais rien contre le plaisir de la vie ou les plaisirs de la vie.
Si c'est pour jouer les.
Inter, extrait de l'album Play Blessure, écrit en 1982 avec Serge Gainsbourg, juste après l'album Pizza. Ce disque est ici une rupture voulue avec Gabi. Bachung se met d'ailleurs dans la peau d'un chanteur disparu mort de soif dans le désert de Gabi. « Respectez une minute de silence, faites comme si j'étais pas arrivé », chante-t-il ainsi sur « Je croise aux hébrides » qui fait partie de cet album Play Blessure. Pas simple en effet lorsqu'on se trouve lesté de chansons comme Gabi ou comme Vertige de l'amour, des tubes dont Bachung va n'avoir de cesse de se démarquer dans ses albums suivants, mais cela toujours sans déclaration tapageuse et surtout sans reniement. « Je serais ingrat si je m'en sentais encombré », dira Bachung en 2000 à Véronique Mortagne pour le journal Le Monde. Cependant, après Gabi, j'ai mis un ou deux albums à dire aux gens que je n'étais pas que ça. C'est au début qu'il faut faire attention, se dépouiller pour montrer qu'on est plus complexe qu'il n'y paraît. En 2006, sur France Culture, dans l'émission « À travers champs » de Cécile Gilly, Bachung parle de sa rencontre avec le grand Gainsbourg.
C'est un souvenir magnifique, parce que c'est... Je l'ai rencontré dans des conditions extraordinaires, parce que je souhaitais faire au moins lui proposer de faire un disque avec moi, parce que je souhaitais faire un mélange de bruit, de poésie et de mots, même de l'humour, enfin il y avait, ou une esthétique aussi de mots que lui avait d'une manière, enfin avec une facilité incroyable. Et donc, j'ai vu le Serge Gainsbourg interviewé par Denise Glaser, en gros. J'ai vu celui-là, j'ai vu Serge Gainsbourg, l'artiste. Je voyais un monsieur et je me disais, on peut plus... C'est peut-être le dernier artiste qui peut vivre sa vie d'artiste comme ça. Et c'est vrai, sûrement. J'ai vu le bonhomme, j'ai vu comment on travaillait. On avait rendez-vous tous les jours à 3h, on travaillait, puis ensuite on faisait la fête. Il tenait le coup, hein, parce que il avait sûrement un foie russe, quelque chose comme ça. Il tenait le coup, hein, plus que moi. Hein.
Et cet album Play Blessure a été réalisé avec lui finalement?
Oui, j'avais préparé toutes les musiques, des playbacks avec un petit cahier où j'avais noté quelques thèmes que je voulais aborder, donc prolonger avec lui. Et on s'y est mis, ça a duré 2-3 mois, et on a enregistré à Paris. C'était assez fou, c'était très dense. Je ne sais pas, comme il était de l'ancienne génération, il me voyait un peu comme un type dont il fallait se méfier un petit peu quand même, parce qu'il voulait quand même être toujours là. Hein, c'était, oui. Il avait un certain orgueil, il voulait être dans le coup. Hein.
Marquer son emprise.
Oui. Et puis je le voyais douter en même temps. Moi, je savais qu'il avait écrit des choses merveilleuses avant et j'avais envie de lui dire, mais tu devrais être à l'aise avec tout ce que tu as fait. Ben non, ça l'empêchait pas de pleurer, ou presque de s'auto-flageller. Mais on savait à quoi s'en tenir avec lui, au moins. Il était très, très clair. Il naviguait pas dans des ambiguïtés.
Quand je rentre tout est prêt. c'est l'heure de me zoner. Demain j'ai une attaque de train. Faut se préserver si on veut durer. Reste toujours numéro un. Après cette baby, ton excuse est floue. T'es allé revoir le fils du chef. Me faire ça moins d'habitude quand je rentre. Tout est sec. In a pay blue. In a pay blue. In a pay blue.
Rebelle, extrait de l'album Play Blessure, écrit par Bachung avec Gainsbourg en 1982. Un disque sombre, assez torturé, en tout cas aux antipodes de Gaby, inspiré ici par la Cold Wave anglaise et qui sera un échec commercial et critique. Certains qualifiant même Bachung de Johnny Hallyday New Wave. Ce que la critique est mordante parfois, d'ailleurs elle qui se désavouera bientôt en qualifiant ce même album de point de repère essentiel dans la discographie du chanteur. Quand j'ai commencé, il fallait que tout soit rock, c'était une sorte de fascisme de se retrouver tous avec des bananes et de ne pas pouvoir aimer aussi Béla Bartok, a dit Bachung, qui n'aura donc de cesse de n'être jamais, jamais catalogué. Voici la ligne, si jamais Bachung en a suivi une, où affleure toujours ce goût pour la noirceur et la dérision qui sont un peu les marques de fabrique de ce musicien plongé dans les méandres cérébraux. J'ai passé la semaine dernière dans une boîte crânienne, écrit-il dans la chanson La nuit je mens. Des textes chez Bachung qui ont pu parfois sembler hermétiques, celui-ci s'en défend, je le cite encore, « Le but n'est jamais d'obscurcir, mais d'être plus vrai. C'est pour moi une façon de livrer une part d'inconnu » qu'on ne prend généralement pas en compte. La langue française est bizarre. Il faut parfois dire le contraire d'une chose pour l'évoquer au plus juste. J'ai l'impression de parler une langue parallèle, qui en dit davantage parce qu'elle échappe à une logique cartésienne. 1989 sur France Culture.
Il y a toujours un peu de noirceur, un peu de dérision aussi. Alors un certain sens de l'humour, c'est-à-dire l'humour traité très sérieusement, Où la gravité conjugue bien avec le léger. Et c'est pour ça peut-être que j'ai eu un peu de mal à raconter mon attitude, parce que même au cinéma, j'ai souvent vu ça en France, il y avait une espèce de frontière terrible entre la distraction et le grave. Et en fait, dans ma tête, les deux vont bien ensemble.
Tradition.
Bombay, écrite avec Jean Faulque dans un des albums les plus aventureux de Bachung, Novice, paru en 1989. Jean Faulque, qui succède à Boris Bergman, le premier complice de Bachung, a décrit admirablement ce travail d'écriture extrêmement singulier où Bachung œuvre un peu comme un chef d'orchestre qui agence les sons, ici les sons de la langue. C'était un travail qui tenait du cadavre exquis, a dit Jean Faulque. Je lui amenais une énorme quantité de textes sans véritable ligne directrice. Il les lisait avec l'art de choper le son ou la phrase qui pouvait l'emmener ailleurs et il faisait très vite son propre montage. Nous procédions par rotation d'une chanson à l'autre, progressant sur plusieurs fronts dans ce système de coupes, de collages, de rebonds, de dialogues et d'échanges. Les chansons ensuite nous échappaient, elles nous guidaient toujours vers quelque chose qu'on n'avait pas envisagé au départ. Mais d'où vient donc ce désir de travailler à deux, se confrontant ainsi auteur à un autre auteur? Eh bien, Bachung en livrait un peu des raisons, en tout cas quelques-unes. C'était en 1992, il était au micro d'Yves Bigot, alors qu'il évoquait sa reprise de la chanson « Les mots bleus » de Christophe.
Je n'ai pas à 100% une démarche d'interprète. Je me sentirais toujours comme une espèce de d'auteur-compositeur incomplet, à compléter chaque fois avec d'autres partenaires. Pour les mots bleus, à un moment donné dans l'album, il y avait un texte comme ça, ça s'appelait « La peur des mots ». Et je racontais comme ça cette peur des mots. Et puis ce texte, il y avait un très beau texte dessus. Et en bout de course, je me suis dit « Mais attends, si j'ai peur des mots, il faut que ça soit en orchestral. » Et dans les mots bleus, je trouvais presque cette idée parce qu'il y avait la trouille de dire des choses et puis... Et puis la maladresse, alors là il s'agissait d'une rencontre avec une fille, alors il lui disait des trucs et puis ça passait mal ou il passait pour un con, j'étais content de me retrouver à chanter cette chanson. D'abord je ne savais pas comment la chanter exactement parce que lui il la chantait très bien. Je voulais me la ramener avec mes moyens à moi et... Mais en tout cas, je n'aurais pas pu la chanter si ce texte ne me concernait pas à un moment donné, parce que il racontait un peu cette suite de ce que j'ai voulu faire, moi. Et il l'a fait il y a plus de 10 ans, peut-être la première version.
Pas loin de 20 maintenant.
Oui, il y avait 73, un album, tout l'album était très beau. Il y avait je me souviens quand cet album est sorti... il avait réussi à faire un très bon disque pop. Il a un timbre de voix unique et il y avait un bon équilibre entre ses sophistications, entre ses mots un petit peu choisis et quand même l'émotion. C'était pas des images l'une derrière l'autre. C'était pas des singeries. Et quand je l'ai rechanté. Je l'ai peut-être chanté comme Léo Ferré chante une chanson très poétique, mais j'étais plutôt dans cet état-là. Alors j'espère que ça lui plaît, Christophe, je ne sais pas.
Il est 6 heures, clocher de l'église, dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre.
Les mots bleus, et nous écoutions juste auparavant Bachung qui évoquait son rapport aux auteurs. Nous allons voir qu'il agit de même avec ses musiciens, par collage, par cut-up, à partir d'idées proposées par différentes personnes, même si tout a été très pensé et très préparé en amont, et cela s'entend. La force de son chant, c'est sans doute la préparation intérieure, la rumination, l'attente, a dit le musicien Rodolphe Burger. La voix de Bachung surnage toujours, dirait également Jean Lameute, qui a été l'ingénieur du son de Bachung pour l'un de ses chefs-d'œuvre, l'album Fantaisie militaire, paru en 1998. Lorsqu'on enregistre sa voix en direct sur la bande, on a l'impression qu'elle a toujours été là, qu'on est en train d'écouter le disque, terminé, mixé, a dit encore Lameute, qu'on entend à présent dans un entretien réalisé en 2010 pour France Culture.
Alain disait toujours qu'il connaissait ses limites dans la composition, qu'il savait parfaitement manier le texte, la façon de se poser, tout ça, sur une chanson, mais que dans la composition pure, il connaissait quelques accords et qu'au bout d'un moment, il se sentait très limité dans la composition. Donc, l'idée d'Alain, c'était d'enregistrer chez lui la chanson sur les trois accords qu'il avait composés, sur un métronome, un clic, une batterie. Ensuite, de couper la guitare, de laisser que la voix et le rythme. Et par exemple, dans le cadre de Fantaisie militaire, il va appeler les Valentins et leur dire « Voilà, est-ce que vous voulez bien m'habiller ma chanson ?» Donc, il leur donne le rythme et la voix, ce qui fait que, pour une même mélodie, on peut mettre plusieurs harmonies et particulariser le son avec le goût qui sont propres, en l'occurrence, au Valentin. Alors, Alain, c'est là où Alain est très malin, c'est qu'il demande ça au Valentin, mais il demande ça à d'autres compositeurs aussi. Ce qui fait qu'on se retrouve avec, pour la même chanson, on va dire trois chansons, où la mélodie et le texte, à chaque fois, marchent sur la version, mais les harmonies sont différentes. Donc, une fois qu'on avait enregistré ces trois versions, Alain il me disait « Dis donc, les violons de Richard sur le refrain, ils sont pas mal, on pourrait peut-être les coller avec le couplet des Valentins qui est super et prendre le pont encore de l'autre version. » Alors, on rentrait les trois arrangements dans la machine digitale, on les superposait, si je puis dire, et ensuite, on jouait avec les ouvertures d'arrangements, en fait, pour colorer la chanson et construire la chanson.
Madame rêve d'atomiseur et deux cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, vague perpétuelle, sismique et sensuelle. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Au ciel, au ciel. On est loin des amours de loin, on est loin des amours de loin, loin.
On est loin.
Madame rêve ad libitum, comme si c'était tout comme dans les prières, qui emprisonne et vous libère. Madame rêve d'apesanteur, des heures de voltige à plusieurs. Rêve de fougères, de foudres et de guerres, à faire et à refaire. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Au ciel,
suis pas un mélodiste comme pourrait être Alain Chamfort ou Michel Legrand, c'est-à-dire les mélodies un petit peu piquées comme ça, très précises. Et puis à un moment donné, il y a des mots qui sonnent vraiment sur telle accentuation ou pas. Alors,
vous partez plutôt du texte.
Oui, ces derniers temps, c'était un peu ça, parce que c'était tellement difficile. Après, je faisais des musiques et c'était tellement difficile de caser un mot sur tel ou tel endroit. Et ça enlevait de la liberté pour raconter quelque chose qui, d'un seul coup, était dans une phrase. Il y a peut-être une phrase parfois qui était assez intéressante et il fallait la laisser vivre. Je me sentais plus libre après, mais c'est des fonctionnements qui bougent, hein. C'est pas toujours le même fonctionnement, toujours, hein. Puis des fois ça prend du temps, et puis des fois je suis complètement perdu, et puis alors. Il faut essayer de reconstruire quelque chose. Quand j'y pense, j'ai vraiment le vertige, hein, parce que c'est effarant. Parce que non seulement c'est une histoire de chanson, mais je voulais également que ça ait à voir avec le son global du disque, c'est-à-dire le son derrière, la production, ce qu'on appelle la production, c'est-à-dire le décor, pour pas que ça soit seulement une espèce d'accompagnement, mais avec un son qui soit le prolongement de ce qu'on raconte, ou l'opposé.
Vous imaginez ce son dans votre tête ?
C'est effarant, non mais je vous dis, c'est... Alors des fois ça peut prendre beaucoup de temps.
Dans ma cornue, j'y ai versé 6 gouttes de ciguë. Un peu d'espoir, ça a d'épaisseur. Et j'ai touillé. Du fond de ma boutique, monte un cantique. Un hymne à l'amour, orifère, ébullition, réaction. Faites monter l'arsenic, faites monter le mercure. Faites monter l'aventure au-dessus de la ceinture. Et les pépites, jetez-les aux ordures. Dans ma cornue, j'y ai versé une pincée d'orgueil mal placée, un peu de gâchis en souvenir de ton corps. Dans ma cornue, j'y ai coulé une poignée de rage. Dans ma cornue, j'y suis tombé. Quelle autre solution que de se dissoudre? Faites monter l'arsenic, faites monter le mercure. Faites monter l'aventure au-dessus de la ceinture. Et les pépites, jetez-les aux ordures. Dans les faubourgs, je décante. Le soir, à la lune montante, au matin, je reprends connaissance. Ébullition, réaction. Faites monter l'adrénaline, faites monter l'arsenic, faites monter l'aventure au-dessus de la ceinture. Et les pépites, jetez-les aux ordures. Faites monter. Faites monter.
faites monter extrait de l'imprudence, une sorte de long poème symphonique au climat mouvant, envoûtant, avec des pianos déformés, des samples, des distorsions, et puis ce son de l'harmonica que vous avez entendu, harmonica que joue Alain Bashung. Et juste auparavant, un des titres que le chanteur a toujours énormément aimé chanter sur scène, cette magnifique chanson que Madame rêve, extraite de l'album Osez Joséphine, autre grand succès. En tout cas, avec l'imprudence, Bashung a encore franchi un palier avec ses arrangements magnifiques et ce romantisme sombre et inquiétant qu'il a souvent expliqué par son goût pour les films de série B ou de la littérature fantastique. Et puis ce Sprechgesang qui fait de lui une figure totalement singulière sur la scène du rock français. En 2003, Franck Malin interrogeait justement Alain Bashung.
Votre manière de chanter qui est toujours entre Sprechgesang et psalmodie, il y a quelque chose qui peut-être vient de chez Kurt Weill ou de chez Stravinsky, l'histoire du soldat, ou de Schoenberg, du Pierrot Lunaire, il y a quelque chose de... Votre voix est toujours, on ne sait jamais où elle est, où elle se situe. Encore plus peut-être dans l'imprudence, dans le dernier disque.
Oui, parce que ça, c'est une histoire d'équilibre aussi. Hein. Parfois, je laisse le décor musical derrière raconter la mélodie et je m'insinue dedans ou je me promène. C'est comme des petits opéras. Vous citiez Kurt Weill. Moi, j'ai beaucoup aimé Kurt Weill parce que c'était presque le premier rocker européen. Et je crois que beaucoup d'artistes dans la pop musique connaissent vraiment bien Kurt Weill. Et il y a des réminiscences de Kurt Weill chez Lou Reed, chez Bowie, même The Queen.
Tom Waits.
Les phrasés Tom Waits. C'est Kurt Weill, il avait ce phrasé-là dans des... C'était presque bâtard peut-être quand c'est sorti, parce que c'était ni un vrai opéra sérieux, et c'est ni élitiste, mais ça devenait populaire. Ce monsieur a été très important, oui. Ouais, oui, parce qu'il faisait le lien entre quelque chose qui pouvait être sérieux et le brutal, naïf ou poétique, et puis en même temps, il parlait de problèmes sociaux, hein, il parlait de tout ce qui arrivait. Enfin, il y avait la Deuxième Guerre mondiale qui commençait à poindre, donc il y avait on sentait la peur déjà, hein. Bon, c'était assez... Il y avait toute une esthétique qui correspondait à ça.
Continent à la dérive, qui m'aime me suivre, gouffres avides, tendez-moi la main. Rêve et ravin, règle nos moulins, cale nos chagrins. Le temps écrit sa musique sur des portées disparues, et l'orchestre aura beau faire pénitence. Un jour j'irai vers l'irréel, tester le matériel, voir à quoi ça donne la madone. Un jour j'irai vers une ombrelle, y seras-tu, y seras-tu. Thank you.
continent à la dérive. Une vague idée me guide. C'est l'heure où je glisse dans les interstices. À l'article de l'amour, je redeviendrai l'enfant terrible que tu aimais. Un jour j'irai vers l'irréel, un jour j'irai vers une ombrelle. Y seras-tu? Y seras-tu?
Vous avez un univers particulier pour ce dernier disque, L'Imprudence. Qu'est-ce qui a fait que vous avez... Il est dans cette atmosphère, comme ça, de film d'horreur, de personnages de Dracula, Nosferatu.
Oui, j'ai dû être attiré quand même par des personnages un petit peu... Des monstres un peu, ou des... Peut-être que je me sentais différent. Je souffrais de ça. Je me disais... comment je vais faire dans la vie? Je me sens à part. Je crois que tout le monde est passé par là, peut-être. Et je voyais dans ce monstre qui était rejeté, qu'il fallait qu'il se cache. En fait, il était peut-être très malheureux, parce qu'il ne ressemblait pas à tout le monde. C'est pour ça que ça intéresse encore les gens, parce qu'ils se projettent dans ce genre de personnage. Ils voient ce type qui souffre pour tous les autres. Ça a à voir avec l'exclusion, peut-être.
Je tuerai la pianiste pour ce qu'elle a fait de moi. Chaque jour de ma vie, chaque semaine, chaque mois, et je mordrai sa joue qui un jour fut à moi. Sur le piano de ses nuits, sur le piano de ses draps, je tuerai la pianiste afin que l'on sache que quelque chose existe. Pianiste, afin que l'on sache que la vie d'artiste n'est pas rose, n'est pas sans tache, comme un navire qui tangue, qui rompt ses attaches. Je tuerai la pianiste afin que l'on sache que quelque chose existe en dehors de ça. Je tuerai la pianiste qui n'a pas su m'aimer. Dans la chambre je pleure où l'amour se cache. Je tuerai la pianiste afin que l'on sache que quelque chose existe. Et quand ce sera fait, que le jour sera levé sur le satin de ses méfaits, comme une pierre soulevée. Où grouille la vermine dans le champagne et le caviar, dans son manteau d'hermine, on pourra la voir, le corps animé au fond de sa baignoire. Ce qu'elle a fait de moi, chaque jour que Dieu fait, chaque semaine, chaque mois. Et quand ce sera fait, que le jour se lèvera par l'entrée des artistes, quand on saura que c'est moi, alors je m'en irai, je la couvrirai d'un drap, alors je m'en irai. Pianiste pour ce qu'elle a fait de moi, chaque jour de ma vie, chaque semaine, chaque mois. Et je mordrai sa joue qui un jour fut à moi, sur le piano de ses nuits, sur le piano de ses draps. Je tuerai la pianiste afin que l'on sache que quelque chose existe. Je suis un Indien auquel on a fait croire que la montagne est loin. Je tuerai la pianiste. Je tuerai la pianiste.
Je tuerai la pianiste, la plume de Gérard Manset, qui se fond ici admirablement dans l'univers Bachung, dans ce dernier album paru en 2008, Bleu Pétrole. En 2008, Alain Bachung est consacré, mais déjà condamné, il est atteint d'un cancer du poumon, qui l'emportera un an plus tard. En tout cas, ce statut d'icône, de star, aura toujours échappé à Bachung. Ceux qui l'auront bien connu nous diront toujours qu'il est resté d'une simplicité rare, qui s'affiche d'ailleurs comme une évidence dans l'extrait de l'interview donnée en 2002 pour le Figaro. Le journaliste lançait à Bachung, qui venait de qualifier Charles Aznavour de grand monsieur, « Vous aussi, vous êtes devenu un grand monsieur. » C'est presque une vacherie de me dire ça, répondit Bachung. Je ne sais si c'est de la fausse modestie ou des restants de complexe, mais je ne sais pas. Ça me donne le vertige, ça. Il ne faut pas me dire des trucs pareils. C'est bientôt la fin de nos greniers de la mémoire. Allez, encore une dernière archive, nous sommes en 2006.
C'est pour dire quelque chose. Enfin, c'est parce que c'est, un jour j'ai découvert ce moyen de m'adresser aux autres par ce biais-là. J'avais très peu confiance en mon éloquence. Et c'est un plaisir quand on y arrive un peu. Quand on est sur le point d'y arriver, c'est vraiment un plaisir physique. Voilà, de dire quelque chose à l'autre. C'est peut-être la première des choses. Et puis ensuite, voir à quel moment telle chanson peut être importante, ça a à voir avec des réflexions sur Oui, dans la société ou comment. Enfin, j'ai tellement vu dans les années 80 notre façon de. Nos attitudes ont changé entre hommes et femmes. C'était très important. Donc il y avait des tas de choses à redéfinir, mais même pas à redéfinir, juste dire à ce moment-là quels sont les rapports entre les gens, l'apparence, l'importance de l'apparence, les utopies qui s'en vont. Enfin, des tas de choses comme ça qui sont arrivées d'un seul coup. L'économie de marché même. Hein, où j'ai chanté ma petite entreprise pour plein de raisons. Hein, c'était quelque chose... en fait, c'est devenu une chanson d'amour, mais en fait, au premier degré, c'est pour défendre les petites entreprises, parce que je voyais qu'on aidait beaucoup les gros trusts, et puis ils mangeaient tout... Et en fait, en France, c'est beaucoup de petites entreprises qui font tourner la marmite, en fait. Bon, donc c'était pas négligeable.
Peu à peu, tout me hâte. Je me dérobe, je me détache, sans laisser d'auréole. Les cymbales, les symboles collent. On se rappelle, on se racole. Peu à peu, tu me happes. Tu vois ce qu'on voit qui s'ébranle? Non, tu vois pas.
Hap, cette chanson qui refermera cette heure passée à écouter Alain Bachung, ça n'est pas courant. Sur France Musique, aurais-je converti certains mélomanes, vous me le direz. Les Greniers de la mémoire, une émission de Karine Lebaille réalisée par Christine Amado avec le concours de Françoise Monteil, Archivina, Anne Lorveille et Aude Vassan. Guillaume Ledu a mixé l'émission de ce jour, merci à lui. Et vous savez que les Greniers de la mémoire sont disponibles à la réécoute ou au podcast sur le site de France Musique. Si vous aimez Bachung, eh bien 2 heures vous attendent sur le site francemusique.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux pour dialoguer avec l'équipe des Greniers. À très bientôt.